France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Nicolás Maduro devant la justice américaine, 48 heures après sa capture à Caracas. L'ex-président vénézuélien doit être inculpé pour narcotrafic, l'accusation que Donald Trump met en avant pour justifier son opération. Nous serons à New York dans un instant. Nous nous interrogerons également sur le rôle de la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez, qui dirige maintenant le Venezuela. Delcy Rodríguez a tenu à ménager les États-Unis dans ses premières déclarations en espérant une relation équilibrée avec Washington. Nous irons aussi en Colombie où le président de gauche Gustavo Petro est prêt à prendre les armes contre Donald Trump, le président américain qui n'a pas exclu une opération contre l'homme fort de Bogota. Dans le reste de l'actualité, la France se dote d'un parquet national contre la criminalité organisée. Anne Fauquemberg nous dressera le portrait de la patronne du PNACO, la magistrate Vanessa Perret. 9 millions de visiteurs au Louvre l'an dernier. La grève a repris aujourd'hui dans le plus grand musée du monde. L'intersyndicale a été reçue cet après-midi au ministère de la Culture. Comme un vulgaire prévenu, Nicolás Maduro est arrivé menotté tout à l'heure au tribunal de New York pour sa première comparution devant la justice américaine depuis sa capture ce week-end à Caracas. Le président vénézuélien déchu doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, au premier rang desquels le trafic de drogue. Sa femme Cilia Flores doit également comparaître devant le tribunal. On retrouve Franck Madvon, notre correspondant aux États-Unis. Franck, cette accusation de trafic de drogue est au cœur de l'argumentaire de Donald Trump pour justifier la capture de Nicolás Maduro. Alors, quelles sont précisément les charges retenues contre l'autocrate vénézuélien ?
C'est un document de 25 pages, très détaillé. Nicolás Maduro y est notamment accusé de narcoterrorisme, de complot en vue d'exporter de la cocaïne et de détention d'armes automatiques et d'explosifs. Il aurait contribué au trafic vers les États-Unis de milliers de tonnes de cocaïne. Maduro aurait par exemple fourni des passeports diplomatiques à des trafiquants ou facilité le transport de l'argent de la drogue par avion. Ce trafic, est-il écrit, a enrichi et renforcé l'élite politique et militaire du Venezuela. Maduro était déjà inculpé aux États-Unis depuis 2020. L'acte d'accusation a été revu. Il vise aussi désormais sa femme, Cilia Flores, présente à ses côtés au tribunal, et quatre autres personnes qui étaient déjà concernées, le fils du couple et trois membres du régime. L'affaire est confiée à un juge très expérimenté, Alvin Ellerstein. Il a 92 ans, il avait été nommé par Bill Clinton et a supervisé beaucoup de dossiers sensibles et médiatisés, les attaques du 11 septembre, l'affaire Harvey Weinstein, ou les poursuites contre l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Nicolás Maduro est pour le moment défendu par un avocat commis d'office qui pourrait tenter de faire valoir l'immunité judiciaire du président déchu. Sans grand espoir, en toute logique, Maduro va plaider non coupable et un procès se tiendra dans plusieurs mois.
Merci Franck Madvon, correspondant de France Culture à Washington. Alors, l'administration américaine a rapidement publié des photos et des vidéos de Nicolás Maduro après sa capture dans son palais présidentiel de Caracas. Mais d'autres images circulent sur les réseaux sociaux censées montrer dans le détail l'opération américaine. Nous sommes avec Valentine Joubin de l'agence de vérification de Radio France. Valentine, la plupart de ces images sont en réalité de la pure invention.
Peut-être avez-vous vu cette image présentée comme la toute première de l'arrestation de Nicolás Maduro. On voit le dirigeant vénézuélien escorté par deux militaires américains avec en arrière-plan un avion. Ça ressemble à une capture d'écran d'un direct à la télé. Sauf que cette scène, censée être historique, n'a jamais été filmée. C'est une fausse photo produite avec intelligence artificielle et qui comptabilise plusieurs millions de vues. Dans un genre plus sensationnaliste, il y a ces vidéos qui prétendent montrer de l'intérieur la capture de Maduro, tel un reportage embarqué avec les forces spéciales américaines. All clear on my end. On est à bord d'un hélico, puis dans la résidence présidentielle à Caracas. Clear. Les hommes en treillis pointent leurs armes sur Maduro et sur son épouse, surprise dans son lit, en pyjama. Ou comment, grâce à l'IA, les internautes fantasment cet enlèvement dont aucune vraie image n'a pour le moment filtré. L'intelligence artificielle permet aussi à d'autres de mettre en scène de soi-disant scènes de l'IS au Venezuela, comme cette vidéo d'un homme qui remercie Dieu d'avoir libéré son pays.
Estamos libres, estamos libres. Dios, Venezuela libre. Gracias, Dios.
Sauf que cette manifestation n'a pas eu lieu, mais cela n'empêche pas des comptes pro-Trump de partager ce faux témoignage et de se féliciter de l'action de leur président.
Valentine Joubin de l'agence de vérification de Radio France. Alors, 48 heures après le raid des forces spéciales américaines, le pouvoir est loin d'être vacant à Caracas. Il est toujours aux mains des partisans de Nicolas Maduro. La vice-présidente Delcy Rodriguez a été immédiatement nommée présidente par intérim. On attend maintenant sa prestation de serment prévue normalement aujourd'hui. Delcy Rodriguez, qui a eu des propos plutôt complaisants à l'égard des Américains, elle veut coopérer avec les États-Unis dans le cadre de relations équilibrées et respectueuses fondées sur l'égalité et la non-ingérence. Olivier Poujade, vous êtes à la frontière vénézuélienne du côté colombien à Cúcuta. La situation ce soir à Caracas apparaît très incertaine, Olivier.
Oui, selon le protocole, la nouvelle présidente ne peut être investie qu'après avoir levé la main droite et prêté serment devant les élus de l'Assemblée nationale, assemblée autour de laquelle d'ailleurs un important dispositif de sécurité a été déployé. Mais tout cela est très confus, même pour Mayra, qui est une ancienne conseillère de communication dans l'administration chaviste. Mayra est à Caracas. Elle affirme que la prestation de serment n'apparaît plus à l'agenda officiel. Elle en déduit donc que Delcy Rodriguez est donc déjà présidente du Venezuela.
Je pense qu'ils maintiennent le secret sur sa présence à l'Assemblée nationale, car il y a de grosses suspicions au sein du pouvoir chaviste que elle et son mari sont à l'origine, sont ceux qui ont facilité l'interpellation de Maduro.
Tous les échos qui nous reviennent de Caracas révèlent une grande fébrilité. Tous les échos qui reviennent de Caracas révèlent une grande fébrilité au sein du pouvoir chaviste. Les autorités vénézuéliennes semblent encore dans un état de sidération après l'opération américaine de samedi. Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas voulu ou pu réagir? Qui sont les agents infiltrés? Tout cela ne fait qu'alimenter un peu plus la paranoïa du régime chaviste.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture depuis la frontière colombienne. Nous restons à Cúcuta où l'on va retrouver dans un instant notre autre envoyé spécial, Faustine Calmel. En Colombie, le président de gauche Gustavo Petro a immédiatement condamné l'opération américaine à Caracas. Cet ancien guérillero est dans le collimateur de Donald Trump, qu'il accuse d'être, tout comme Maduro, impliqué dans le narcotrafic vers les États-Unis. Selon le président américain, une intervention contre Gustavo Petro, qualifié de dirigeant malade, serait même une bonne idée. Le président colombien dénonce des calomnies et se dit prêt à prendre les armes. Faustine Calmel, cette situation tendue inquiète les Colombiens que vous avez rencontrés à Cúcuta.
Sur la place devant l'hôtel de ville, c'est matinée de reprise en ce lundi. Mais Virgilia Duran s'arrête avec plaisir, donner son avis très tranché sur la situation. Pour cette coiffeuse, opposante au président Petro, les menaces américaines seraient presque une aubaine.
Nous savons que Petro est mouillé dans tout ça. Depuis qu'il a été élu, la Colombie s'est affaiblie à 100%. Et où en sommes-nous aujourd'hui? C'est de sa faute, il n'a rien fait. Rien.
Dans cette ville, touchée par la crise économique, à la situation instable, une partie des habitants partage cet avis qui n'est pas celui de Luis Alberto Solane.
Si un président d'un autre pays vient chez nous gérer la Colombie par la force, ce n'est pas bien. Même si notre président n'a pas fait certaines choses correctement, et nous en sommes d'accord. Mais qu'un pays étranger vienne s'en occuper, non, nous ne sommes pas d'accord.
C'est pourtant aujourd'hui une réalité bien tangible, estime Romo Molo Restrepo, inquiet de la situation.
Il a démontré qu'il pouvait très bien intervenir aussi en Colombie, mais l'idéal serait qu'il respecte la souveraineté colombienne.
Sauf que pour cet avocat de formation, le vrai danger, c'est l'absence actuelle d'un droit international fort et respecté par tous.
Prendre les armes? Non, je ne crois pas que le peuple colombien se battra pour Petro. Si lui veut prendre les armes, qu'il le fasse. Mais les Colombiens, non.
Quant à la déclaration de Gustavo Petro de vouloir prendre les armes, ici personne n'y croit vraiment. S'ils veulent faire qu'il y aille, lancent certains, mais le peuple colombien ne se battra pas pour lui.
Faustine Calmel à Cúcuta en Colombie, à la frontière vénézuélienne avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. Après le parquet national antiterroriste, le parquet national financier, la France se dote d'une nouvelle entité compétente sur tout le territoire, le parquet national contre la criminalité organisée. Le PNACO a été lancé aujourd'hui. La loi qu'il a créée vise, je cite, à sortir la France du piège du narcotrafic. Il aura pour mission de traiter, je cite encore, des affaires d'une très grande complexité en raison de la gravité des infractions commises et du grand nombre d'auteurs, de complices et de victimes. 16 magistrats compose pour l'instant ce nouveau parquet. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut en avoir 30 d'ici la fin de l'année. Et c'est une spécialiste de la criminalité organisée, Vanessa Perret, qui dirigera le PNACO. Anne Fauquemberg, vous nous dressez le portrait de cette magistrate chevronnée.
Vanessa Perret est une grande professionnelle et spécialiste des sujets de blanchiment, parfaitement en lien avec ce que nous souhaitons faire, suivre l'argent sale du narcotrafic et taper les criminels au portefeuille. C'est ainsi que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté la magistrate lorsqu'il a proposé son nom au CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a rendu un avis favorable à sa nomination début décembre. Vanessa Perret dirigeait depuis janvier 2024 l'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, un établissement public qui lutte contre l'économie souterraine. Nul ne doit profiter de son délit. Vanessa Perret, que nous avions rencontrée il y a quelques mois, est attachée à cette devise de l'AGRASC, encourageant les enquêteurs à systématiser les enquêtes patrimoniales, volet sur lequel la France doit encore progresser, selon elle. Elle aura également été moteur pour développer l'activité de l'agence vers la saisie de cryptoactifs, de plus en plus utilisée par les personnes mises en cause. Mais avant cela, Vanessa Perret a exercé dans plusieurs juridictions, de Lille à Fort-de-France en passant par Aix-en-Provence. Entre 2020 et 2022, elle a aussi dirigé la 3e division GIRS-Junalco du parquet de Paris, juridiction spécialisée sur la criminalité organisée, avant de devenir conseillère justice d'Elisabeth Borne quand la députée était encore première ministre.
Anne Fauquemberg, merci. À noter que pour remplacer Vanessa Perret à la tête de l'AGRASC, l'agence qui gère les avoirs saisis, Gérald Darmanin a nommé celle qui était sa directrice adjointe de cabinet, la magistrate Charlotte Emmer-Dinger. Ils avaient cyberharcelé Brigitte Macron sur les réseaux sociaux. Ils ont tous été condamnés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris jusqu'à 8 mois de prison, dont 6 mois ferme. Au total, 10 personnes étaient jugées pour avoir harcelé la femme du président ou pour avoir relayé des insultes et des rumeurs. Tous coupables, a donc estimé le tribunal Aurélien Tirard.
Les cyberharceleurs de Brigitte Macron ont eu, je cite, une volonté de nuire à la plaignante. Et cela, selon le président du tribunal, avec des termes malveillants, dégradants et insultants sur sa prétendue pédocriminalité, toujours selon les mots du président du tribunal. Des fausses informations liées au genre de Brigitte Macron et à son écart d'âge avec Emmanuel Macron. Les condamnations sont moins sévères que les réquisitions. Le parquet demandait jusqu'à 12 mois de prison avec sursis à l'encontre de ces personnes âgées de 41 à 65 ans, originaires de toute la France. À la sortie de la salle d'audience, l'un d'entre eux, le galeriste Bertrand Scholler, a dénoncé, je cite, le fait du prince. « Si ce que vous dites ne plaît pas, vous serez condamné », dénonce-t-il, estimant, selon lui, qu'en France, on n'a plus le droit de penser. Pendant le procès, la fille de Brigitte Macron avait décrit l'impact que ces fausses informations avaient sur la santé de sa mère. « On ne touchera pas à ma généalogie, on ne joue pas avec ça », a dit hier soir Brigitte Macron à la télévision.
Aurélien Tirard. Aux États-Unis, Emmanuel et Brigitte Macron ont également engagé des poursuites judiciaires contre l'influenceuse conspirationniste Candace Owen, auteur du best-seller Becoming Brigitte, devenir Brigitte. Il y a bientôt 30 ans, le 8 janvier 1996, mourait François Mitterrand, l'occasion pour France 2 de diffuser ce soir Mitterrand confidentiel, une mini-série sur la face intime de l'ancien président socialiste. Avec ce recul, c'était le bon moment pour raconter ce qu'il fut réellement, estime le scénariste Stéphane Panottier. Mitterrand est un magnifique personnage de série dans toute sa complexité, renchérit le producteur Aurélien Larger. Et ils sont loin d'être les seuls à porter la politique à l'écran, que ce soit comme ici pour une série historique ou pour de la fiction. À l'évidence, Rosalie Lafarge, le sujet inspire.
Baron noir, dans l'ombre, la fièvre, en place, sous contrôle, Parlement, si ça n'a pas toujours été le cas, les séries politiques font maintenant partie du paysage audiovisuel français.
On peut faire des très bonnes séries sur le côté ubuesque, parfois irréel de la politique.
Les jeux de pouvoir, d'alliance, de trahison, aujourd'hui ça plaît, veut croire Régis Lefebvre, conseiller politique, proche notamment de François Bayrou. Il est l'un des scénaristes des Hommes de l'ombre, l'une des premières séries politiques françaises diffusées en 2012.
Les séries racontent un peu les arrières arrière-cuisine, elle ne donne pas toujours à voir le meilleur de la politique. Je bats ma coulpe en l'ayant fait, mais à la fin, je pense que la politique a un côté un peu magique parce qu'elle est fantasmée, parce qu'au fond, les couloirs de la politique sont méconnus. L'idée de passer derrière le rideau, d'être invité dans les coulisses de la décision, c'est un cocktail pour intéresser les gens.
Et la façon d'aborder ces thèmes a changé ces dernières années dans la fiction, relève le critique et historien du cinéma Jean-Michel Frodon.
On a une approche plus nuancée des coulisses de la politique. Il y a eu un grand nombre de films où coulisses de la politique voulait dire manipulation condamnable, malfaisance. Ça continue d'exister au cinéma et dans la réalité. Mais il y a plus l'idée qu'il y a des gens qui essayent de faire des choses, ils ne sont pas d'emblée responsables de tout ce qui ne va pas. Les coulisses deviennent un terrain plus complexe que ce qu'elles ont pu être auparavant.
Plus complexe, mais encore loin d'avoir été exploité jusqu'au bout. Conseillers, députés, ministres, il n'est pas rare de les entendre dire qu'en matière politique, la réalité peut souvent, et notamment en ce moment, dépasser la fiction.
Rosalie Lafarge, merci. Mitterrand en confidentiel à 21h10 ce soir sur France 2, série également disponible sur la plateforme de France Télévisions. Qu'importe les cambriolages et les polémiques sur la sécurité et l'état des lieux, le Louvre continue de séduire les visiteurs. Le musée parisien, le plus grand au monde, a accueilli l'an dernier 9 millions de personnes, 300 000 de plus qu'en 2024. Un succès malgré tout insuffisant pour dissuader le personnel gréviste de renoncer à son mouvement. Après une pause pendant les fêtes, la grève a été reconduite aujourd'hui au Louvre. L'intersyndicale dénonce des effectifs insuffisants, des salaires trop bas et une sécurité obsolète, comme l'a prouvé le vol des joyaux de la couronne dans la galerie d'Apollon en octobre dernier. Marion Ferrer, bonsoir.
Bonsoir.
Les syndicats du Louvre ont été reçus au ministère de la Culture pour exposer leurs revendications.
Une longue réunion qui a duré près de 3 heures après 2 semaines de silence de la part du ministère de la Culture. Silence fustigé par les syndicats qui se sont donc rappelés à son bon souvenir ce matin en reconduisant le préavis de grève. Les accès au musée aujourd'hui étaient donc de nouveau très restreints. 3 heures de échanges rue de Valois qui ont tout de même permis ce soir une reprise du dialogue, saluent les syndicats. Sur la table, le ministère promet de rééquilibrer les salaires jugés pour certains trop bas et d'adapter les missions du Louvre aux réalités des effectifs. Valérie Beau est la secrétaire de la section CFDT Culture au Louvre. Impossible pour elle de remplir les objectifs actuels alors que les effectifs ne cessent de diminuer, notamment ceux de la sécurité. Une baisse devenue trop flagrante depuis le cambriolage du mois d'octobre.
L'administration dit qu'en 10 ans, la surveillance et donc la sûreté a perdu 50 équivalents temps plein. Nous, on dit 150, parce qu'en fait, on prend le périmètre plus large. Les personnes qui sont en caisse contrôle, pour nous, ils font aussi de la sûreté. Mais vous voyez que déjà 50, c'est énorme. Ce vol, c'est aussi l'élément déclencheur des problèmes profonds qu'il faut résoudre au Louvre.
Il va donc falloir faire des choix, admet ce soir le ministère qui refuse d'embaucher faute de budget. En attendant, l'intersyndicale a su rester ouverte au dialogue, mais ne promet pas de mettre fin à la grève. Une nouvelle assemblée générale est prévue mercredi matin. Ce sont les agents qui décideront, tranchent les syndicats.
Marion Ferrer, merci. 9 millions de visiteurs pour le Louvre l'an dernier et 12 millions pour la centaine de monuments nationaux en 2025. Un nouveau record en tête du classement de ces monuments nationaux. L'Arc de Triomphe à Paris et l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le magazine Télé 7 Jours et ses déclinaisons Télé 7 Jours Jeux et Télé 7 Jeux ont été rachetés par le groupe allemand Bauer Media, racheté à CMI France, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Des négociations exclusives avaient été engagées en juillet pour ce rachat. Effectif depuis le 1er janvier, le montant de la transaction n'a pas été précisé. Situation très compliquée ce soir en Ile-de-France, en raison de l'offensive neigeuse. Depuis le début d'après-midi, on signale plus de 1000 km de bouchons sur le réseau routier francilien. À Paris, la RATP a même interrompu le trafic des bus en raison de la neige dans les rues. Un mot du temps demain qui restera hivernal avec toujours 26 départements du Nord-Ouest en vigilance orange pour la neige et le verglas. Demain, toujours des chutes de neige sur le Nord et l'Ouest du pays, mais elles seront moins fortes qu'aujourd'hui. En revanche, ces chutes de neige seront soutenues sur le Nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les conditions de circulation seront très délicates en raison des chaussées verglacées. Demain matin, les températures seront glaciales entre moins 3 et moins 7 degrés en général. L'après-midi, les maximales sont en légère hausse entre 0 et 9 degrés en pleine en général. Je reviens un instant sur la situation au Venezuela avec la capture de Nicolas Maduro. Eh bien, Nicolas Maduro qui a comparu tout à l'heure devant un tribunal de New York et l'ancien président vénézuélien a plaidé non coupable devant ce tribunal de New York. Nous y reviendrons tout à l'heure à 19h.